Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de votre culture financière, on s'occupe de votre portefeuille, on s'occupe même de votre patrimoine immobilier dans Tout pour investir. Là, on va s'occuper de votre culture sur les matières premières. Car oui, vous nous envoyez quelques questions sur ces matières qui occupent parfois la une des médias. On parle beaucoup de cacao en ce moment, mais on n'a pas parlé que de cacao. Bonjour Olivier Le Chevalier.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur de Deft Edge. On va démarrer avec un sujet polluant. Le pétrole. On va faire un petit point sur le pétrole, sans blague. Puisque, alors, on se parle, le Brent est au-dessus des 85 dollars. On aimerait comprendre un peu ce qui se passe autour du pétrole, qui monte doucement, sans que ça fasse la une des médias.
En fait, tout d'abord, c'est vrai qu'effectivement, le pétrole, la hausse du baril a pris 30% depuis le début de l'année. Tout ça, c'est dû en fait notamment par rapport aux relations avec l'Ukraine, la Russie, où il y a eu des doutes en fait sur la partie approvisionnement. Donc du coup, forcément, ça, les Américains ont repris les USA la partie sur ce sujet pour avoir plus d'indépendance et aussi en fait pouvoir être le premier producteur mondial sur cette activité. Donc effectivement, pour nous, en tout cas pour la partie européenne et française, en tout cas, on se retrouve un peu plus dépendant de nos amis américains. On voit bien, je voulais juste rajouter qu'on voit bien qu'il y a une scission qui se pose aussi au niveau des énergies, des matières premières. C'est-à-dire, on voit plutôt un côté russe et un côté un peu plus pays développés, Amérique, Europe, sur ce sujet, où on va avoir en fait des pays qui vont se rallier derrière ces deux puissances, en tout cas.
Pour bien comprendre, aujourd'hui, notre plus gros fournisseur de pétrole en France et en Europe, c'est qui ?
Notre premier fournisseur, en tout cas, on a une partie, sur la partie. Pétrole, on a d'abord c'est effectivement les USA et quand même tout ce qui est pays Émirats, Arabes, Afrique du Nord. Et après, sur la partie, en tout cas, gaz naturel liquéfié, c'est surtout là on a une énorme dépendance qui s'est jouée parce que l'Europe est surtout passée de la Russie vers les États-Unis.
C'est sur ça qu'on explique un baril à 85 dollars ?
Là, du coup, il y avait plus d'appétit, en tout cas, et plus de confiance de la part des investisseurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une hausse. Mais attention, il peut y avoir un effet de ralentissement. Là, demain, on va avoir les chiffres du PIB américain et qui, du coup, peuvent donner un renfort au dollar. En général, le dollar est l'inverse, réagit de manière inversée au pétrole. Donc, si le pétrole monte, le dollar s'affaiblit. Mais si le dollar se renforce, en fait, le baril en fait, va stopper aussi sa croissance.
Voilà, le poids du dollar aussi dans ce chiffre du baril de pétrole. On a pas mal de matières premières à discuter avec vous, mais d'abord un tout petit pas de côté pour les investisseurs particuliers qui nous écoutent. S'arrêter sur le prix des matières premières, que ce soit le cuivre, l'argent, le pétrole là dont on parle, pourquoi c'est important ?
On en a dans notre quotidien tous les jours. Pour je pense que tout le monde est concerné sur ces sujets. Tout le monde va à la pompe pour faire son plein d'essence, son plein de diesel. Tout le monde va aussi, quand vous êtes dans les métiers de la construction, on va avoir du cuivre. C'est parti, qui font les câbles électriques, les réseaux d'eau, etc. Tout ce qu'on peut retrouver. Tout ce qui est argent, effectivement, on va le retrouver dans les connecteurs qu'on peut retrouver dans l'industrie photovoltaïque, dans tout ce qui est autour de l'électronique, en tout cas. Et du coup, pour le prix de l'argent aussi, il avait pas mal évolué. Juste la petite parenthèse qui est pas mal corrélée au dollar. Enfin, pardon, à l'or, excusez-moi.
Le cuivre, vous en parlez. On sait l'importance de ce métal, on va dire ça. En début d'émission, on disait que le prix du cacao venait de dépasser le prix du cuivre. Alors, le prix de la tonne de cacao a touché les 10 000 dollars hier du côté de New York. C'était à peu près la même tendance du côté de Londres. C'est au-dessus du prix de référence du cuivre. Au-delà, de l'effet, on raconte cette anecdote. Qu'est-ce que ça signifie ?
Pour le cacao, tout simplement, c'est-à-dire que en fait, il y a un énorme stress sur ce marché. Donc, en fait, on a cette partie où on est en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Ghana, Côte d'Ivoire, où on a des cacaotiers qui sont vieillissants, qui sont attaqués par des maladies. Et en plus, de surcroît, en fait, on va avoir aussi cet impact réglementaire. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir importer de cacao à partir de décembre 2024 sur tout le cacao qui proviendrait en fait de déforestation. Donc ça opère aussi un stress supplémentaire. Donc on voit bien que déjà là, c'est surtout sur un sujet agroalimentaire et surtout aussi il est boosté parce qu'il y a de plus en plus de pays développés qui consomment aussi du cacao. En tout cas pour la partie cuivre, en tout cas de toute façon, là on est plus dans la transition énergétique qui avait pris un peu de retard à cause de la Chine qui avait connu son ralentissement aussi par rapport à l'utilisation de batteries, à cette transition énergétique. En tout cas, la relation n'est pas toujours évidente, mais en tout cas, si jamais la Chine venait à ralentir, en tout cas, le prix du cuivre aussi ralentirait sa consommation. Enfin, en tout cas, le prix pourrait baisser. En revanche, sur le cacao, on pourrait quand même encore estimer où JP Morgan, je crois, et Barclays se mettaient d'accord pour que le prix monte encore, en fait, sur la partie cacao, pouvant atteindre encore plus de 10 000.
On va revenir sur la partie peut-être alimentaire tout à l'heure. Pour revenir sur le cuivre, aujourd'hui, le cuivre provient majoritairement de Chine.
Oui.
Expliquez-nous l'état de l'industrie du cuivre en Chine.
Alors, pour le moment, en tout cas sur la partie cuivre, on avait noté une forte baisse en septembre dernier. Donc là, on est reparti à la hausse, mais là, le prix avait quasiment été divisé par deux, parce que là, on est sur le cuivre, on est dans les 8007. Hein, en fait, on avait pas mal baissé, je vous ai dit une petite bêtise. Hein,
8700 dollars.
Exactement, sur le cours. Sur cette partie, donc il avait baissé parce qu'il est tracté, en fait, surtout par l'industrie chinoise. Et donc, comme elle était au ralenti, avec des mauvais chiffres, tout ce qui s'était passé aussi quand on s'était vu la dernière fois avec Evergreen, oui, des difficultés, donc du coup, ça pesait. Et là, cette année, on est quand même dans ce côté renouveau, les 75 ans l'anniversaire du Parti communiste chinois, en tout cas, qui se passe le 1er octobre. Donc, en tout cas, la Chine cherche à montrer qu'elle est dynamique et donc, du coup, en tout cas, vient aussi essayer de tracter la croissance et de remettre, en fait, parce qu'il y avait les stocks de cuivre qui s'étaient écoulés et donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir reproduire de nouveau.
Un cuivre avec un cours élevé. Alors, on avait la barre des 10 000 tout à l'heure. On disait que le cours du cuivre est autour de 8 748 dollars à l'heure où on se parle. Oui. Ça se répercute comment et dans quel prix ?
Alors, ça se répercute comment ? En tout cas, on va surtout le revoir forcément dans tout ce qui est industrie, la construction et l'énergie et tout ce qui est en fait panneaux photovoltaïques pour tout ce qui va en fait accompagner la transition énergétique. En fait, on en a besoin en tant que connecteur, on en a besoin aussi pour transmettre l'électricité qui peut faire un lien en fait avec toute la consommation d'uranium et d'électricité qui va accompagner ce mouvement. En tout cas, il y avait un ralentissement, et du coup, là, maintenant, il y a une reprise, en tout cas, qui s'effectue sur ces domaines.
Une autre matière dont on a besoin et dont on ne parle pas tous les jours, c'est le carbonate de lithium. C'est oui, un matériau qui est utilisé notamment dans les batteries électriques. Faites-nous le portrait du carbonate de lithium.
En fait, c'est un conducteur qui permet tout simplement, en fait, au fonctionnement de la batterie. Et du coup, il y avait, de fait, hein, c'est un peu pareil, comme le cuivre, il y avait un ralentissement sur cette demande. Donc, si vous n'avez pas de demande sur la batterie, s'il n'y a pas de demande sur la partie ESG, effectivement, toutes ces matières qui servent de conducteurs, eux, baissent aussi derrière. Et du coup, s'il y avait, et la Chine aussi, en fait, avait stocké pas mal et donc était obligée, en fait, d'abord de déstocker pour pouvoir effectuer cette relance.
Obligé de déstocker. Bon, vous nous expliquez là aussi que la Chine est centrale sur ce carbonate de lithium.
Exactement. Donc c'est le pays, en tout cas, avec l'utilisation du cuivre, de tous ces produits, en fait, qui est le premier utilisateur, le premier producteur, en tout cas. On le voit notamment dans toute l'économie. Donc juste sur ces parties-là, en tout cas, on voit bien que c'est la Chine, comme d'habitude, qui est l'ogre industriel du monde.
Nous faisions un petit peu plus tôt un sujet sur l'investissement dans la souveraineté européenne. Comment peut-on parler de souveraineté quand on voit notre dépendance aux matières premières qui viennent quasiment toutes de l'étranger ?
Comment du coup être moins dépendant ?
Malheureusement, plus indépendant, oui, sans doute.
Oui, plus indépendant. La difficulté, je pense, elle reste toujours économique. Hein. Si vous n'avez pas les ressources, si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir, en tout cas, vous êtes obligé, de toute façon, d'importer ces matières premières. Et de toute façon, le consommateur, c'est aussi lui qui drive. Hein. C'est un peu le sujet qu'on revoit depuis le début de l'année en termes d'économie générale. Mmh. Dire, oui, je veux bien soutenir l'économie française, mais bon, mon portefeuille préférait quand même acheter le moins cher possible.
On ne peut pas parler de transition énergétique, en tout cas en Europe et en France, sans parler du nucléaire. et le nucléaire, on ne peut pas en parler sans parler d'uranium. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, Olivier, de l'équipe Deft Edge, sur la géopolitique de l'uranium?
Alors, sur cette partie géopolitique, c'est vrai qu'on en entend peut-être beaucoup moins parler, en tout cas dans l'actualité. Enfin, je dirais, quand on est investisseur, on va toujours se concentrer sur des matières premières qu'on connaît bien ou on en entend parler. Et c'est vrai que le vrai sujet reste l'uranium, parce que qui dit indépendance énergétique, production d'électricité, eh bien, si on veut le produire à moindre coût, la meilleure solution, c'est quand même d'utiliser le nucléaire. On n'a jamais vu autant cette année de construction, en tout cas de centrales nucléaires.
Donc, une soixantaine à peu près cette année.
Exactement, une soixantaine, dont exactement, je crois, une vingtaine en Chine, surtout 8 en Inde, et après c'est la Corée qui viennent aussi prendre le lead sur cette partie avec 4 centrales nucléaires. En tout cas, c'est essentiel. Donc ce qui dit, en tout cas, aussi il y a eu ce problème en tâche de fond, qui était de dire il y avait le Niger, qui était le 7e producteur mondial d'uranium, qui était avec la France, qui est passé après avec les Américains, puis qui finalement s'est associé à la Russie. Donc, pour revenir sur cette géopolitique, on voit bien qu'il y a un peu deux mondes qui se distinguent. D'un côté, un peu le côté russe et les pays qui se rangent derrière. Donc, on l'avait vu au préalable. Et après, toute la partie, en fait, qui vient se ranger derrière l'Europe et les États-Unis. Et quid de ce qui se passera avec Donald Trump si ça ferait pas un troisième opérateur à partir des nouvelles élections s'il est réélu. En tout cas, voilà, c'est un sujet vraiment important sur la partie consommation d'électricité, où là on voit qu'il y a de la demande et l'offre reste toutefois limitée.
Voilà, ces matières qu'il faut surveiller d'un point de vue évidemment financier, mais surtout on l'entend d'un point de vue géopolitique. On parlait de cacao, on va finir sur ce sujet que tout le monde s'approprie, parce qu'évidemment c'est bientôt Pâques, tout le monde aime le chocolat. Mais plus sérieusement, la tension qu'il y a sur le cacao, qui est à l'origine évidemment du chocolat. Le potentiel de la consommation de chocolat dans le monde, je crois que les Français, on consomme 3 ou 4 kilos par an, les Américains c'est 9. Mmh. L'Inde et la Chine c'est anecdotique, mais on imagine que c'est en croissance.
Exactement.
Il va y avoir des tensions dans le monde de demain, il y en a déjà dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le cacao est sous les radars. Quel autre produit, j'ai envie de dire, populaire de grande consommation est sous les radars et dont on ne parle pas, pour conclure cette interview,
J'ai envie de dire dont on ne parle pas, j'ai envie de dire que de toute façon, là, donc il y a le cacao. Effectivement, là aussi, il y avait quelques informations qui sont tombées, notamment sur le sucre, où on avait des difficultés, en tout cas sur les planteurs européens, à venir tout simplement semer les terres. Donc on pourrait dire qu'il pourrait y avoir un stress sur le prix du sucre plus tard. Est-ce qu'il va y avoir encore le nouveau phénomène en Espagne, avec le phénomène El Niño? Est-ce que l'huile d'olive va pâtir de ces difficultés? Est-ce que, de toute façon, le café aussi, de toute façon, on voit bien qui faisait partie de l'indice Bloomberg entre l'énergie et les matières premières, qui faisait monter d'une manière générale. Donc, en tout cas, on est vraiment sur des difficultés, où on va aussi avoir peut-être des tensions sur le jus d'orange ou sur ces produits. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est café, cacao, sucre, et notamment sur la partie jus d'orange. Et après, on va avoir quand même les céréales. Si jamais, il y avait encore un rapport qui a été publié sur l'utilisation du glyphosate, qui dit tension sur l'utilisation de pesticides, dit peut-être augmentation aussi du prix des matières premières.
Merci beaucoup, Olivier Le Chevalier de Deft Edge, pour ce tour d'horizon, ce petit topo sur les matières premières. Vous reviendrez nous voir régulièrement pour continuer à surveiller ces sujets et les évangéliser auprès de notre audience. Merci beaucoup. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site BFM Business.